Le journal présenté par Violette Ferreira.
Bonsoir, les radios régionales ont le sourire et c'est le cas de RJB qui a renforcé ses audiences sur une année. Au nom de toute la rédaction, merci, votre radio régionale a gagné presque 9000 auditeurs. Un chiffre qui contraste avec ceux de la SSR dans un contexte de transition vers le DAB. On en parle en début d'édition. Elle a fait son apparition hier soir sur la montagne de Bougeant. La croix suisse s'illuminera pendant 40 jours. Nous avons suivi son montage hier soir avec toute une équipe de bénévoles. Les producteurs suisses d'aliments végétaux tirent la sonnette d'alarme. La demande est forte, mais les paysans ont du mal à rivaliser avec la production étrangère. Aujourd'hui, la profession s'est déplacée dans le Seeland pour appeler à prendre des décisions. Météo, la fin de journée est ensoleillée, la soirée sera dégagée avec une nuit plutôt fraîche selon Météo News. Demain, toujours du soleil et quelques cumulus sont attendus dans le courant de l'après-midi sur les reliefs. Il fera maximum 27 degrés. Les radios de l'arc jurassien ont le sourire, leurs audiences progressent de manière significative en comparaison annuelle. RJB réunit 43 000 auditeurs, soit un bond de 25%. RTN connaît une hausse de 10% et c'est plus 5% pour RFJ. C'est ce qui ressort des données d'audience collectées par la fondation Mediapulse. Ces données positives tranchent avec l'évolution des audiences de la SSR. L'abandon de l'AFM en début d'année a provoqué une hémorragie sur les chaînes du service public. La première voit ses audiences chuter de 19%. La perte est encore plus marquée à Couleur 3 avec un plongeon de 42% ou à Espace 2 en recul de 46%. Certaines chaînes sont-elles menacées ? Réponse du porte-parole de la SSR, Nick Leuenberger.
Non, parce que la qualité est toujours là et l'audience aussi. Il ne faut pas oublier qu'on a toujours beaucoup d'audience, qu'on a toujours les plus grandes parts de marché dans toutes les régions linguistiques. Et puis, il y a aussi des autres moyens d'écouter les stations. Il y a le streaming, il y a l'écoute à différé qui n'est pas mesurée, par exemple, par ces mesures de Mediapulse. La consommation médiatique change et puis que les gens, ils écoutent différemment nos stations. Et puis, on voit aussi des augmentations dans l'utilisation digitale.
Néanmoins, au vu des chiffres publiés aujourd'hui par Mediapulse, est-ce que des mesures seront prises par la SSR afin d'attirer à nouveau des auditrices et des auditeurs?
C'est d'abord la qualité et l'offre qui compte. Et ça, c'est toujours là. Les gens, ils savent ce qu'ils ont avec les chaînes. Va être parti. Donc les gens qui n'ont pas encore fait le changement, ils vont le faire encore et on est très optimiste que les gens ils restent et ils retournent peut-être aussi sur les chaînes de la SSR.
Et les radios régionales romandes font une lecture tout autre de la situation. Les RRR demandent le maintien de l'AFM au-delà de 2026. La survie de plusieurs radios régionales en dépend. Le président des radios régionales romandes, Philippe Sano.
Surpris quand même de la dimension de cette diminution de l'audience de la RTS et de la SSR en général, tout cela pour des raisons techniques. Donc on a un problème avec l'arrêt de la FM, tout simplement. Je pense que c'était prématuré et puis qu'il faut encore donner du temps aux auditeurs pour s'adapter, en particulier dans les véhicules, dans les voitures, pour acquérir des récepteurs DAB ou changer de voiture. Maintenant, ils ont toutes le DAB. Et je crois vraiment que c'était trop tôt. La SSR perd un quart de ses auditeurs. C'est quand même assez dramatique. Et cela nous amène bien sûr à dire qu'on ne peut pas arrêter la FM au niveau des radios régionales parce que la SSR peut se permettre de perdre des auditeurs. Elle ne perd pas ses revenus, tandis que les radios régionales touchent une bonne part de leurs revenus de par la publicité. Donc c'est donnant-donnant. On ne peut pas, nous, arrêter la FM, perdre un quart des auditeurs et puis perdre également des revenus publicitaires.
Un dossier mené conjointement avec Olivier Zano et Adrien Juvet. La fondation Mediapulse note que le média radio conserve un impact fort. Les stations suisses et étrangères ont touché près de 7 millions de personnes par semaine. Bonne nouvelle pour les contribuables du canton. Si vous avez obtenu un délai jusqu'au 15 juillet pour remettre votre déclaration d'impôt, vous bénéficiez d'un rallongement supplémentaire. La date butoir est désormais fixée au 15 août pour effectuer cette démarche sans recevoir de rappel. Cela est dû à un problème technique affectant la plateforme BeLogin, indique aujourd'hui la direction des finances. Cette prolongation automatique ne concerne que les délais initiaux accordés jusqu'au 15 juillet. Vous l'avez peut-être déjà aperçu, chaque année, à cette période, une croix suisse apparaît en haut de la montagne de Bougeant pendant une quarantaine de jours. Elle est visible dans toutes ses landes, loin d'une apparition surnaturelle. C'est grâce à un travail d'orfèvre que cette structure de 18 mètres de haut et de large s'illumine depuis des décennies. De 21h à minuit et demi, à l'initiative de cette action, la guilde du quartier de Bougeant et le groupe de gymnastique de Bougeant, une vingtaine de bénévoles étaient sur place hier soir pour l'installer. Estelle Herman les a accompagnés dans un montage bien rodé par des années d'expérience.
C'est dans une grange, juste à côté des vaches, qu'on trouve la croix qui sera montée dans un petit moment. On va essayer de grimper. Pas d'échelle ici, il faut passer par les bottes de paille. C'est un peu de gymnastique, quelques sauts. On est maintenant dans la grange avec le matériel.
Ça, c'est la marchandise pour les croix.
Donc des barres de fer. On en a combien en tout?
17.
On y va alors.
Là, c'est fait.
On redescend cette fois de nouveau par les bottes de foin et on va passer au montage.
Mon nom, c'est Roland Haldimann. Je suis le secrétaire de la guilde de Bougeant depuis presque une vingtaine d'années. C'est aussi à peu près 20 ans que je suis ici pour aider, pour monter la croix et pour démonter la croix après en août. D'abord, on va visser la croix par terre avec les vis et les écrous. Après, on fixe les guirlandes avec les lampes. Il y a 180 lampes LED. On va fixer ça avec des bandes en plastique. Avant de monter la croix, on fait un test pour regarder si toutes les ampoules sont illuminées. Pour monter la croix en haut, pour tirer en haut, il faut avoir un certain nombre de personnes pour lever déjà la croix. La croix est presque en mouvement. Et il faut toujours avoir sur chaque poteau au minimum 2 personnes. Plus qu'on est, plus simple c'est. Et c'est aussi une question aussi de sûreté. Quand on a tiré en haut, on avait un problème parce que ces hommes, ces équipes ne tiraient pas de la même façon. Il faut que la croix ait toujours à l'équilibre.
Dernière étape, et une étape très importante, il faut fixer la structure pour être sûr qu'elle ne se déplace pas. À chaque poteau, une personne va monter, fixer tout ça, et ensuite c'est terminé. La croix est placée, les ampoules sont encore éteintes. C'est le moment pour l'équipe d'aller se reposer autour d'un bon repas. Ce n'est que plus tard que les ampoules s'allumeront, et ce sera le cas tous les soirs pendant 42 jours.
Alors maintenant, on a terminé.
Et c'était un reportage d'Estelle Herman sur le montage de la croix suisse installée sur la montagne de Bougeant. A précisé que les 180 ampoules LED fixées à la croix ne consomment que 33 francs d'électricité sur les 42 jours d'illumination. Ils veulent préserver ce qui les unit, tel est le slogan du nouveau comité Lovres Existe. Une trentaine d'habitants se sont rassemblés contre le projet de fusion avec Reconvilliers et Saules. Les ayants droit doivent se prononcer sur le sujet le 30 novembre. Récemment, le groupe d'opposition a déposé des tracts appelant à voter contre la création de ce qui est baptisé Clerval. Pour Daniel Bonjour, opposant au projet, l'argument des fusions qui ont fonctionné ailleurs n'est pas valable.
La question, c'est comment est-ce qu'on évalue quelque chose qui a fonctionné ou pas, à quel degré, qu'est-ce qui dit que ça a fonctionné. Si on regarde aussi en termes d'économie d'échelle, est-ce qu'on a vraiment un gain substantiel par rapport aux choses qu'on met en jeu aujourd'hui en tant que commune? C'est qu'on a une commune de Lovres qui est très vivante, où il y a une vie démocratique aussi qui fonctionne bien. Et puis, est-ce que les gains potentiels qui ont fonctionné peut-être à Valbirse, est-ce que ça, mis en balance avec ce qu'on a aujourd'hui, est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre ce risque? On n'est pas dans une démarche d'opposition, on est dans une démarche d'ouverture. Ça, c'est quelque chose qui est très important, d'ouvrir la parole, en fait. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ne sont pas vraiment posées la question. Et c'est là où c'est important d'amener ces informations, d'amener ce dialogue, d'amener, en fait, la curiosité de savoir qu'est-ce qui se passe.
Fabienne Secchi, la maire de Lovres, explique qu'elle s'attendait à la création de ce groupe. Elle répond toutefois que c'est un processus démocratique normal et espère que le oui l'emportera. La production agricole d'aliments végétaux en Suisse est à la peine malgré une demande de plus en plus forte. Aujourd'hui à Peterlen, l'Union suisse des paysans et les paysans bio ont constaté que les producteurs suisses ne parviennent pas à rivaliser avec les produits étrangers. Ils réclament une meilleure protection douanière, davantage de possibilités pour protéger les cultures et une aide pour les innovations. IP Suisse avait investi dans la production locale de quinoa mais a dû renoncer. Les explications de son gérant Christophe Egenschwiller.
Au début, il y a toujours l'envie de faire quelque chose soi-même. C'est toujours assez encourageant de voir que des producteurs dans l'agriculture veulent s'investir dans l'innovation, disent finalement non, ce n'est pas une fatalité de ne pas produire en Suisse. On a le savoir-faire, on a les idées, on a des situations de départ au niveau du sol, etc., qui sont aussi idéales. On remarque qu'on s'oppose, je dirais, à une réalité du marché assez brutale, où on est justement, quand on manque peut-être un peu de protection, on est en concurrence directe avec des produits qui sont finalement équivalents dans la perception, mais qui souvent sont importés, qui sont meilleurs marchés. Il y a peut-être un développement qui pourrait amener une certaine protection passive, je dirais. Si on intègre les données climatiques dans toutes ces réflexions-là, il est évident que pour des raisons de transport qui seraient nettement réduites si on produisait sur place, eh bien, il y aurait peut-être une certaine correction s'il y a un certain montant investi dans la réduction du CO2.
Un sujet réalisé aujourd'hui donc à Peterlen par notre correspondant parlementaire Serge Jubin.
À l'écoute d'RJB, il est 18h11.
RJB Sport.
Le FC Bienne engage un nouvel attaquant. Il annonce aujourd'hui la signature d'Ilion Sebounia pour le prochain championnat de Promotion League de football. Cet élément offensif de 24 ans arrive en provenance de Vevey et devra notamment compenser les départs de Brian Beyer, Malco Sartoretti ou encore Loïc Soca. En cyclisme, l'Irlandais Ben Healy a remporté aujourd'hui la 6e étape du Tour de France. Il s'est imposé en solitaire au terme d'une étape animée entre Bayeux et Vire en Normandie. Le Néerlandais Mathieu Van Der Poel récupère pour une seconde le maillot jaune qu'il avait perdu hier au profit du Slovène Tadej Pogacar. Amanda Anisimova disputera sa première finale de Grand Chelem samedi à Wimbledon. La joueuse de tennis américaine a battu la numéro 1 mondiale Arina Sabalenka 6-4, 4-6, 6-4 aujourd'hui en demi-finale sur le gazon londonien. Elle affrontera la Saint-Galloise Belinda Bencic ou Iga Świątek pour le sacre. La Suissesse et la Polonaise s'affrontent en ce moment même et c'est pour leur 3-0 dans le premier set. C'est Iga Świątek qui mène. Toujours en sport, l'équipe de Suisse de football veut écrire la plus belle page de son histoire. Elle peut se qualifier aujourd'hui pour la première fois pour les quarts de finale de l'Euro qui se disputera en Suisse. La sélection nationale défie la Finlande ce soir à 21h à Genève pour son dernier match dans la phase de groupe. Un point suffit aux Helvètes pour reprendre un rendez-vous avec l'Espagne la semaine prochaine. Les Suissesses s'attendent toutefois à livrer une nouvelle bataille contre l'Islande, dimanche, la sélectionneuse nationale Pia Sundhage.
It will be a fight as well. Finland has some fast players, but also some smart players in the middle of the park.
Ça va à nouveau être un combat. La Finlande a des joueuses rapides, mais aussi des joueuses intelligentes au milieu de terrain. Mais ça ne va pas être uniquement un match de course, même si la vitesse de jeu sera importante, je crois. On a regardé nos data de quand on a joué nos deux premiers matchs. On a aussi regardé l'histoire de la Suisse quand on a joué la Coupe du Monde. Et quand on regarde les données, les sprints répétés, la couverture de terrain, eh bien on est content. Pour le match contre la Finlande, nous devons le montrer sur le terrain. Pas seulement courir et se battre, nous devons être intelligentes, c'est important je pense. Savoir quand mettre la pression ou pas, quand descendre nos lignes ou pas.
And when not to put pressure, when to go down the line and when not go down the line.
Des propos recueillis et traduits par Lydiane Guena. La rencontre décisive entre la Suisse et la Finlande démarre à 21h à Genève. Nous y reviendrons dans la page sport avec la jurassienne Marie-Thérèse Chetla qui est la grand-mère de la gardienne helvétique Livia Peng. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Une très belle soirée à vous.
RJB Sport.